le vent de l'art. Ce soir, nous recevons Cécile Rivière Bonnefoy. Nous sommes ensemble sur Fréquence Mistral 99.3. Ce soir, nous sommes vraiment, en tout cas moi particulièrement, très heureux de recevoir Cécile Rivière Bonnefoy. Nous parlerons, nous irons à la visite du patrimoine de la région, en particulier de Digne. Nous irons à la découverte des bâtiments, de l'artisanat d'art, avec Cécile Rivière Bonnefoy. Voilà, nous parlerons de tout ça ce soir, mais d'abord, on va écouter un morceau de musique choisi par Cécile pour démarrer cette émission.
Quanto immagino deve sapere. C'è forse un viaggio, un alto bue, c'è forse un viaggio, un santo per te, un santo per te. Qual è chi ti dice io capo su, cercando sa porta vi rida qua su, cercando sa porta vida si tu, vida si tu.
Asia, Asia,
la notte la avrò ca. Mana ya zbucha,
Asia,
intera ya gompa.
Termine freddo ne buio chissà, e do ielo te un sonna da va. Do ielo te so d'eternità, e poco di breme chi tempo verrà, a doia speme un ne che compa, a doia speme ci crede ci dà, ci crede ci dà.
Asia, Asia,
a notte la avranca,
Asia,
a domana ya sbuccia.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüro Mitglied Schabowski nicht mehr den hohen Weg über die Tschechoslowakei nehmen. Dies kündigte er am Abend vor der Presse in Ostberlin an.
Un paesano, un amore idee. Facci verania più che vuole, tu facci verania regina in me, regina in me. Che chi ti pesa non finisce più, di chi stella accesa vigliola si tu, di chi stella accesa mistero di nu, mistero di nu.
Asia, Asia,
a notte la avranca. Manaya zbucha,
Asia,
teraya gompa.
Voilà, vous écoutez Fréquence Mistral sur 99.3. Nous sommes dans le vent de l'art jusqu'à 22h, ensemble, avec comme invité ce soir Cécile Rivière Bonnefoy. Ce soir, nous allons découvrir un peu tout ce qui se passe à travers l'activité, et Dieu sait qu'elle est nombreuse, qui tourne autour du patrimoine, des bâtiments et de l'artisanat d'art dans cette belle ville de Digne-les-Bains. Mais au départ, on va un peu vous découvrir, Cécile. Vous êtes arrivé dans la région très tôt, en fait.
Oui, bonsoir Roch, bonsoir Bernard. Effectivement, je suis arrivée, j'avais 4 ans.
Ah oui.
Donc, même si je ne suis pas née ici, si mes parents sont originaires de Touraine, je me considère à part entière comme basalpine.
Oui, c'est ça. De cœur d'adoption, ouais. Et puis de vécu quasiment, quoi. C'est pas parce qu'on est né quelque part ailleurs que le cœur et la vie ne bat pas pour la ville où on a grandi. Hein.
Ouais, tout à fait.
Oui, c'est ça. Et vous vous sentez d'ici, et c'est très bien. Et les Basses Alpes, vous les connaissez, vous les avez découvertes au fur et à mesure de votre parcours, et vous considérez que vous les connaissez bien ?
Ah non, pas du tout.
Ouais, c'est difficile de connaître ce départ.
Oui, voilà, hein. Qu'on découvre tous les jours, enfin toutes les années, des nouveaux endroits, des sites, des rencontres.
Oui,
voilà.
Tout à fait. Oui, ce département est d'une beauté incroyable. Alors, on va parler avec vous de vos fonctions et de ce que vous faites et de vos actions au sein de cette, commune de Digne-les-Bains. Mais avant ça, vous avez fait vos études ici, vous avez fait les premières études ici, puis après vous êtes parti.
Alors, je ne suis pas partie très loin, je suis partie d'Aix-en-Provence.
Oui, oui.
Et j'ai fait des études de sociologie et ethnologie.
Oui.
Après du tourisme dans le Var.
Oui.
Et puis avec toujours l'idée quand même de vivre ici.
Oui.
Donc je ne me suis pas vraiment expatriée.
Voilà. Oui, c'est ça. La Provence, Aix-en-Provence, mais en fait cette envie de rester, de redécouvrir ou de découvrir en permanence, comme on le disait au départ, ce beau coin.
Hein. Oui, oui, oui. Ben, en fait, oui, je me sens très bien dans le Pays d'Inois. On a un département qui est très très varié, qui est contrasté. Et bon, voilà. Moi, j'ai été marquée très jeune par, je pense, les paysages, les balades. Les cabanes dans la forêt, voilà.
Oui, oui.
Et même si j'ai alors voyagé pas mal en étant étudiante, mais je me suis toujours dit que, à part peut-être le Canada, je me voyais pas vivre ailleurs.
Voilà. Oui, c'est ça. Mais cela dit, on retrouve dans certains endroits du Canada quand même des coins qui ressemblent pas mal à ici, à part que l'hiver est un peu plus long,
oui.
ou beaucoup plus long. Mais dans les Rocheuses, il y a quelques coins qui ressemblent à ici.
Hein. Oui, tout à fait, avec des lacs, beaucoup de lacs partout,
que ce soit
à l'est ou à l'ouest.
Il y a beaucoup plus d'eau, oui.
Il y a plus de lacs que d'habitants au Québec.
Oui, voilà. Tout à fait. Alors, donc... C'est votre troisième mandat à la mairie ici, mais c'est la première fois que vous avez vraiment, en tant qu'adjointe déléguée au patrimoine. Alors, votre titre exact, je vais le lire parce que bon, il faut le connaître vraiment. C'est adjointe déléguée au patrimoine, bâtiment et artisanat d'art, avec une large délégation donc. Hein.
Très large effectivement. Je pense que je n'avais pas mesuré tout à fait l'étendue de la délégation. Parce qu'en fait, elle recouvre des domaines très différents et surtout un nombre important de services ou de structures. Et donc, pour gérer tout ça, pour mener des politiques avec les services, avec les partenaires, parce qu'il y a beaucoup de partenariats aussi avec le monde associatif, c'est vrai que ça demande beaucoup de disponibilité. Mais enfin, c'est aussi merveilleux à mener, passionnant, pas toujours facile, mais enfin très, très riche. Voilà. Et les deux premiers mandats, j'avais déjà pris quand même des délégations au niveau simplement d'être référente quartier.
Oui.
Voilà, ça paraît tout basique, mais la proximité avec les gens, l'écoute du terrain... expliquer, parce qu'il y a beaucoup de demandes qui remontent des habitants, mais on ne peut pas toujours faire. C'est important d'expliquer, d'échanger et de partager des moments aussi conviviaux. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, tout d'un coup, on dit, voilà, j'ai grandi ici, j'aime cette ville, c'est mon cœur qui parle, et puis tout d'un coup, on dit, j'ai envie de passer une étape et d'aller... devant le grand jury, le peuple, pour se faire élire, quoi. Qu'est-ce que c'est qui vous a motivé ?
Je ne me suis pas trop posé la question, en fait. Je pense que j'ai grandi aussi dans un milieu où j'avais mes parents qui étaient quand même très engagés, notamment au niveau social, mais aussi en tant que chrétien, voilà. Et ça a quand même été un modèle, en fait, la disponibilité pour les autres, être au service des autres, voilà.
Oui.
Sans contradiction entre les discours et les actes. Voilà. Je pense qu'il y a une honnêteté intellectuelle qui est pour moi qui est un devoir de l'élu. Voilà. Et donc, quand on m'a proposé, je sais pas, j'avais 22, 23 ans, de rentrer sur une liste électorale, de faire partie d'une liste, j'ai dit, tout de suite, j'ai dit, mais pour faire quoi? Quel est le programme? Et on m'a dit, mais il n'y a pas de programme. Le programme, il est à construire. Et voilà, ça a été le démarrage. Bon, on n'a pas été élus la première fois. Mais après, il y a un groupe d'action municipale qui s'est mis en place sous l'égide de René Fine à l'époque, qui avait conduit donc une liste d'opposition. Et pendant 5 ans, ben, on a travaillé par petits groupes. Des gens nous ont rejoints. Voilà. Ça s'est construit comme ça, à plusieurs, dans l'action, dans la réflexion, dans les propositions. Et c'est une démarche qui était assez passionnante.
Et c'est ça. Et à partir de cette envie de servir les autres, de servir la communauté, de servir le coin où l'on a grandi et où l'on a envie de d'aider les autres, on en fait un passage au militantisme. Et puis tout d'un coup, pendant 5 ans, vous avez décidé de, au fond, préparer votre élection.
Quoi. Oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, on est aujourd'hui dans la liste, on est encore 3 ou 4 qui faisons partie de l'équipe de l'époque,
oui.
Donc il y a plus de 20 ans. Hein. Mmh. Voilà, et on a continué le chemin. Je pense qu'il y a la notion de servir les autres, de servir sa ville, d'avoir des projets pour sa ville. Et parfois, c'est des petits projets, mais c'est tout aussi intéressant. Et puis bon, il ne faut pas nier non plus, on se fait aussi plaisir. Quand on arrive à mener à terme une action, un dossier, de mettre sur pied quelque chose qui nous a fait vibrer, c'est satisfaisant.
Oui, il y a une satisfaction, mais satisfaction, elle est quand ça aboutit, oui. La satisfaction, elle est... mais tout le chemin aussi est un chemin où, comme dans n'importe quelle balade en montagne, c'est pas après pas qu'on construit vers son but. Hein.
Oui, tout à fait.
C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui, au départ... Bon, d'accord, on a vu, vous êtes dans ce chemin-là, et puis tout d'un coup, vous choisissez des délégations.
Alors, les délégations, j'avais déjà démarré sur le patrimoine au mandat précédent, des actions en lien avec l'adjoint à la culture. Et c'est vrai qu'il me semblait possible d'aller plus loin et de faire autre chose. Donc, quand on a constitué la nouvelle équipe, avec le collègue qui pressentait avoir le poste de la délégation culture, et le patrimoine l'étant rattaché, on a discuté ensemble. Moi, donc, j'avais plutôt développement durable et bâtiments. Et par affinité, on a dit on coupe nos délégations en deux. Donc, je me suis retrouvée avec le patrimoine, les bâtiments, qui est quelque chose qui n'a rien à voir, évidemment, et auquel je ne connaissais rien.
Oui.
Et puis, l'artisanat d'art, en fait, art ou artisanat d'art, ça, c'était une volonté d'impulser quelque chose dans ce mandat.
Oui. Voilà. Et donc, vous l'avez pris, au fond, parce que c'était une volonté, et plus particulièrement votre volonté ?
Oui, tout à fait. Oui. Oui, connaissant des artistes amateurs ou professionnels, ou des artisans d'art, les difficultés qu'ils avaient à pouvoir exposer, avoir une vitrine, se faire connaître, me semblait quand même correspondre aussi à ce qu'on voulait mettre en place au niveau du centre ancien. Et comme on avait l'opportunité de disposer d'un local dans la rue du Bac qui était municipal et qui avait été libéré par l'occupante, donc j'ai proposé au maire de mobiliser ce local pour faire une galerie ouverte à tout le monde. Voilà.
Oui, on en parlera plus particulièrement de cette galerie de Lubac. Mais donc, c'est venu au fond d'une intention et d'une volonté d'aller sur ce terrain. On parlera un peu de chaque étape. On va faire un espace musical et puis on parlera de chaque facette, de vos facettes, je dirais. Parce que patrimoine, bâtiment, artisanat d'art, c'est quand même...
Le grand écart.
Le grand écart. Allez, on revient tout de suite. Vous écoutez Fréquence Mistral sur 99.3. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h dans le vent de l'art et en ce moment avec Cécile Rivière Bonnefoy et nous parlions un petit peu en général comme ça. On va rentrer un petit peu plus dans le détail du rôle et de la mission que vous vous êtes donné au fond à vous-même et puis que les électeurs vous ont confié quand même. Mais vous êtes adjointe déléguée au patrimoine, bâtiments et artisanat d'art. On a vu qu'il y avait un grand écart entre ces différentes délégations. Alors on va parler du patrimoine. Qu'est-ce que c'est que le patrimoine au fond ?
Alors c'est très large le patrimoine là aussi. Le patrimoine, ça part de l'idée un peu d'héritage, hein, ce que nous ont légué les générations antérieures, et la nécessité de le sauvegarder, de le valoriser, de l'animer, de le faire connaître. Voilà. Mais la notion, elle couvre des champs très divers. Il y a le patrimoine matériel et immatériel. Il y a le patrimoine monumental, architectural. On a quand même sur la commune deux cathédrales, une qui appartient à l'État, la cathédrale Saint-Jérôme, donc fin 15e jusqu'au 17e, avec une nouvelle tranche de travaux au 19e siècle. La cathédrale Notre-Dame-du-Bourg, cathédrale romane, fin 12e, avec une crypte archéologique qui a été aménagée par la ville de Digne, avec le partenariat de l'État, de la région et du département, dans le cadre du plan du patrimoine antique porté par la région. Et c'est un site extraordinaire, quoi. C'est 30 ans de travaux entre la remise en état de la cathédrale du Bourg et la crypte, l'aménagement de la crypte. Et c'est 20 siècles d'histoire de la ville. Voilà. On a le premier édifice paléo-chrétien, 4e siècle. On a des murs. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de visiter la crypte.
Oui.
Voilà. C'est une crypte de près de 900 mètres carrés, donc une des plus grandes des plus grands aménagements archéologiques souterrains d'Europe. Et donc, c'est un espace qui, enfin, moi qui me saisis, on voit toutes ces époques de construction, c'est un millefeuille, en fait, avec les murs. Il y a des murs du 1er ou du 2e siècle qui sont merveilleusement conservés.
Oui,
avec des moellons, des pierres taillées, carrées, d'une régularité incroyable. Et tout ça, on dirait que ça vient d'être fait, d'être réalisé. Voilà.
Alors que ça...
20 siècles.
20 siècles pour certaines parties.
Ah ouais.
Et que ça recoupe un peu ce millefeuille. C'est un voyage à travers le temps.
Hein. Ah oui, complètement. Un voyage à travers le temps, à travers notre histoire, à travers l'histoire de l'homme, parce qu'il y a des découvertes intéressantes qui ont été faites, hein, puisqu'il y avait quand même énormément de tombeaux, de squelettes qui ont été analysés. Et donc Josiane Richaud, qui est la conservatrice de la crypte, faisait remarquer qu'en fait, les Dignois, même au 10e, 11e siècle, avaient une taille moyenne un peu supérieure à la moyenne au niveau du...
Connu
de la
à l'époque,
région, oui, mais... à l'époque, et était plutôt en bonne santé, avait une durée de vie un peu plus longue. Donc voilà, on était déjà dans un climat qui était sain voilà, un environnement sûrement propice à la vie.
Toutes les bonnes plantes qui étaient sur ces collines et qui sont toujours sur ces collines d'ailleurs,
ouais,
permettaient de rallonger la vie.
Ouais. Hein, ouais.
Extraordinaire. Alors bon, moi j'en comprends bien cette notion de patrimoine dans la notion de monument, de vestige, mais c'est pas que ça le patrimoine.
Non. Alors il y a un autre patrimoine bâti dont on ne peut pas éviter de parler, hein, sur Digne et le Pays de Loire, ce sont les chapelles quand même.
Oui.
Alors on est toujours dans du bâti, mais quand même on a un réseau de chapelles sur notre territoire extraordinaire qui partent du Moyen-Âge au XVIIe siècle. Et on s'aperçoit que dans toutes les communes, des habitants et des associations ont eu à cœur de restaurer ces chapelles, de les rendre ouvertes au public. Voilà, ça fait partie... Alors voilà, la notion de patrimoine, c'est qu'est-ce qu'on considère qui nous appartient et qu'il faut léguer, hein, et qu'il faut
transmettre.
Voilà, transmettre.
Oui,
ouais, tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi dans l'aventure de la cathédrale du Bourg et de la crypte, c'est que les municipalités se sont succédées et toutes ont continué cette étude, ce travail, et à mobiliser des financements pour arriver au bout.
Oui.
Voilà. C'est aussi.
Enfin, s'il n'avait pas fait, le...
Oui, ça aurait été dommage, mais voilà. Je pense que le patrimoine, c'est aussi ce qui nous rassemble et ce qui nous identifie. Alors, à côté de ça, effectivement, il y a toutes sortes de patrimoines. Hein. Il y a le patrimoine environnemental et naturel. Donc, on peut parler de la réserve zoologique qui a été donc créée à l'époque en 84 par un décret d'État et qui vise à conserver ce patrimoine naturel et géologique sur 230 000 hectares sur le département, plus vaste réserve géologique d'Europe, à le restaurer, à le protéger.
Et c'est vous qui en avez la charge ?
Alors, la réserve, elle est gérée par une association.
Oui.
Dans laquelle plusieurs partenaires officient, en fait. Donc, les membres de l'association, ce sont essentiellement des élus. Et la présidence est tournante entre le conseil général et la ville de Digne. Et une vice-présidence est octroyée à l'Université de Provence.
D'accord.
Hein, parce qu'il y a le volet scientifique recherche qui est primordial.
Évidemment.
Voilà. Avec, là aussi, des financements État, région, département, ville de Digne. Et Europe sur des programmes bien définis. Et on a la chance, on a à Digne la porte d'entrée de la réserve géologique. On a le musée Promenade, qui est un site extraordinairement riche au niveau biodiversité, faune, flore, avec aussi cette cascade de tuf. Et le jardin des papillons, qui est hébergé également sur le site. Dénombré à peu près 1300 espèces végétales et animales sur ce parc qui fait une dizaine d'hectares. Et on a une représentation de la moitié des espèces diurnes de papillons présentes en France. Voilà. Donc on a tout ça. C'est un mélange assez bouillonnant. De découvertes, de connaissances qui sont livrées à tout public parce que le lieu est accessible. Il y a énormément d'actions pédagogiques. Il faut de la médiation. Donc ça, c'est une constante, je dirais, au niveau de la délégation patrimoine. C'est rendre accessible à tous. Donc proposer une gratuité maximum, des visites guidées, des actions avec les scolaires, avec aussi les personnes plus âgées, voilà.
Et puis certainement aussi drainer un ensemble de personnes dites touristes thème, dites touristes de passage ou quoi que ce soit, pour faire en sorte que le lieu intéresse aussi les passants.
Oui, vous avez raison de le souligner. L'Office de tourisme a réalisé une étude qui a montré qu'il y avait trois axes de positionnement touristique sur la ville, dont culture et patrimoine. Et effectivement, on a une offre qui est très riche et à nous de la valoriser et de la faire connaître, je pense, davantage que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est à travailler. C'est un axe d'amélioration pour nous aujourd'hui, puis pour les futures équipes. Hein. Mais la réserve, par exemple, il y a entre 17 et 18 000 visiteurs sur le parc Saint-Benoît par an.
Oui.
Le musée Alexandra d'Avinel, c'est pareil. Hein, la notoriété d'Alexandra d'Avinel draine énormément de monde. On est autour de 10 000 visiteurs. Les cathédrales, la cathédrale Saint-Jérôme, pareil, entre 8 000 et 10 000 visiteurs.
Et pourtant, c'est la cathédrale de Victor Hugo, on pourrait dire, parce que Les Misérables, c'est de là que ça part.
Oui.
C'est le geste par excellence des chandeliers.
Le geste des chandeliers qui renvoie aussi, je pense, à la notion de partage, de pardon, de générosité.
Sans jugement.
Générosité de cœur.
Sans jugement.
Oui, sans jugement.
Ouais, sans jugement. Le, ce qui est d'ailleurs très amusant, sachant qu'il y a la prison à côté. Bon. Juste parenthèse. Alors, donc on revient sur ce patrimoine. Ce patrimoine, c'est donc un positionnement qui est un positionnement bien réel, de bâtiments et ces chapelles dont vous avez parlé. Alors, est-ce qu'il y en a une qui vous tient plus particulièrement à cœur de chapelle ?
Oui, c'est la chapelle Saint-Vincent, hein, la colline Saint-Vincent. La chapelle, parce que d'abord, j'habitais en dessous quand j'étais petite, au quartier du Bourg. Et moi, je m'échappais dans la colline sans arrêt.
Et le but, c'était la chapelle.
Ben oui, parce que c'est un plateau Ouais. Donc, qui est cultivé, qui a toujours été cultivé, mais c'est un plateau extraordinaire. On a une vue, on a un panorama sur les vallées. On domine, on se ressource. Donc là aussi, il y a une faune, une flore qui est intéressante à découvrir. Et puis, les chapelles, elles étaient perchées à des endroits stratégiques. Il y a une atmosphère, il y a une vibration, il y a quelque chose. Quand j'étais petite, je me disais, quand je serai grande, j'habiterai là-haut et j'aurai un hélicoptère. Voilà.
Mais là-haut, c'est peut-être aussi là-haut dans la réflexion et dans tout ça. Hein.
Ouais.
On va écouter Norah Jones parce que je trouve que ça va bien dans l'ambiance qu'on vient de décrire là.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you.
Voilà la douce voix de Norah Jones. Vous écoutez Fréquence Mistral sur 99.3. Nous sommes dans le vent de l'art, ce vent qui souffle sur notre ville en ce moment, parce que nous sommes avec Cécile Rivière-Bonnefoy et nous parlons du patrimoine. En ce moment, nous étions en train d'évoquer d'ailleurs toutes ces chapelles et en off, comme ça, on parlait de toutes ces associations qui restaurent, entretiennent, dynamisent ces lieux, et heureusement qu'elles sont là, vous disiez.
Oui, tout à fait. Les communes, elles seules, ne peuvent pas entretenir ce patrimoine aujourd'hui. Donc elles peuvent accompagner, elles peuvent aider, elles peuvent mobiliser des fonds, appuyer techniquement par leurs services les bénévoles, mais le travail des bénévoles et des associations, il est indispensable, il est à souligner, il est à encourager. Et moi, il faut vraiment féliciter la présence qu'on a sur la commune, des associations comme les Rénovateurs de Saint-Pancras, qui montent pratiquement tous les vendredis, qui ont fait un travail, mais de géant. Parfois, en rigolant, moi, je leur dis, mais arrêtez d'avoir des idées, on n'arrive plus à suivre. L'association des résidents de Courbon, l'association des habitants de l'association de sauvegarde du patrimoine de Gobert, plus tous les bénévoles aussi qui ont participé à des chantiers comme on a conduit sur la chapelle Saint-Vincent avec la part, des chantiers de jeunes ou de moins jeunes, qui viennent passer 15 jours, 3 semaines pendant leurs vacances. Alors beaucoup sont étudiants, mais certains travaillent. Pour donner un coup de main et remonter une ruine, remonter un mur, assurer la couverture. Heureusement qu'ils sont là.
Oui,
et puis, sans oublier tous les donateurs. Et on a travaillé avec la Fondation du patrimoine et on a récolté des fonds avec là aussi des associations, par exemple une chorale qui s'est mobilisée pour faire une quête, pour pouvoir participer aux travaux et refaire la toiture.
D'une seule chapelle.
Et cette chapelle, qui pour moi est symptomatique de la ville, parce que dès qu'on arrive sur Digne par la vallée de la Blionne, elle marque le paysage. Oui. On voit au creux des montagnes, il y a Digne, et pof, en face, on a la chapelle Saint-Vincent qui est là, comme une protection en fait.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, les anciens choisissaient ces endroits pour ça, des fois pour protéger, des fois pour honorer, et puis des fois pour rendre grâce aussi.
Tout à fait.
Il y avait toute cette dynamique-là des chapelles avec. Alors ça, c'était les bâtiments, mais le patrimoine. Alors, on a parlé des bâtiments, on a parlé de la réserve, mais alors votre action continue dans la partie patrimoniale.
Oui. Alors, on a effectivement sur la commune, on a des musées. Donc, qui sont municipaux. Donc, on a le musée Alexandra Davinel qui est en charge de présenter la vie d'Alexandra Davinel et puis également de faire connaître son œuvre, et qui est un musée qui a été mis en place grâce à l'action de Marie-Madeleine Perronnet, sa gouvernante.
Oui, oui.
Tortue, comme elle l'appelait, qui est toujours là, et toujours là pour témoigner et pour faire avancer. Elle a plus de 80 ans. C'est une personne peu commune. Et une richesse pour la ville, parce que si elle n'avait pas été là, aujourd'hui, je pense que l'œuvre d'Alexandra Davinel serait certainement connue. Mais il n'y aurait pas ce lieu pour partager... ce qu'elle a été, ce qu'elle a vécu, et puis être une référence de son histoire, de son aventure, quoi. Voilà. On a également donc le musée Gassendi, alors qui est un musée aussi très intéressant parce qu'il mêle art, science et nature. Voilà. Et tout ce dialogue entre les collections. Des beaux-arts comme la peinture provençale, par exemple, du 19e, qui renvoie à ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'art contemporain sur le territoire. C'est un dialogue incessant entre les collections, donc beaux-arts, naturalistes, archéologiques, et ce qui se passe sur le territoire qui est en résonance avec ça. Le musée Gassendi a l'originalité d'avoir ses collections dans le musée, dans le bâtiment, et une poursuite, en fait.
Une ramification complète.
Une ramification hors les murs.
Ouais.
Voilà. Ouais. Avec le travail qui a été mené dans le cadre du Cairn, mais avec l'extension, avec la crypte, avec tous ces artistes qui viennent en résidence. Et
une conservatrice hors norme.
Oui. Voilà. Ça tient. Voilà. Ce qu'on peut développer au niveau d'une politique culturelle ou patrimoniale, je pense que ça tient effectivement aussi aux agents communaux qu'on a, aux conservateurs, aux responsables de services. Et je dois dire que dans cette délégation patrimoine, on a des agents pleinement investis, bien au-delà de leur mission de service public qu'ils ont à cœur, mais qui savent donner sans compter. Voilà. Donc le musée Gassendi, il développe, il innove sans arrêt. Et la galerie du Cairn, qu'on a pu, à force de batailler quand même, réinstaller dans un bâtiment communal qui a été libéré par l'ancien tribunal, boulevard Victor Hugo. Je pense qu'elle va donner une dimension particulière à ce territoire, parce qu'elle renvoie sur l'axe art contemporain toute la réflexion que l'homme peut avoir aujourd'hui par rapport à la société dans laquelle il vit, à son impact sur la nature, parce qu'elle interroge sans arrêt. L'activité artistique, elle nous interroge. Elle interroge le spectateur.
Elle est là aussi dans le cadre de l'art au sens large. Et l'art au sens large, c'est vraiment au niveau de la nature, de l'esprit, de faire d'évoquer, de faire réfléchir, ouais, d'interpeller, de choquer, mmh, de donner une distance, hein, de donner à la fois des fois du recul, mais des fois aussi de l'avance et ainsi de suite. Donc c'est ce qui fait que les créateurs sont souvent ceux qui bousculent la routine, ceux qui bousculent les croyances, ceux qui bousculent les acquis. Hein.
Ouais, ouais. D'où l'importance des politiques culturelles. Hein, qu'elle soit, et je pense qu'il faut rester vraiment très vigilant par rapport à ça. En période de restrictions budgétaires, surtout, ne sacrifions pas la culture. Parce que non seulement elle interroge, mais je pense qu'elle aide aussi à faire comprendre le monde dans lequel on vit, à accompagner des périodes de crise, en éduquant. Tout citoyen, soit ouais, jeune, moins jeune.
Sacrifier la culture, c'est comme si on se coupait de notre esprit, ouais, et puis qu'on considère qu'on n'est plus qu'un corps. Hein. Ouais. Parce que la culture, c'est nos sens, parce que la culture, c'est notre esprit, parce que la culture, c'est notre avenir. Hein.
Oui, ouais, ce sont nos émotions, c'est, oui, tout à fait. C'est très vaste. Et, voilà. Donc je pense qu'au niveau de l'équipe municipale et ce que j'ai mené avec mes collègues, c'est restons vigilants sur ce champ-là, continuons à avoir des projets mobilisants, travaillons avec des partenaires, mais favorisons les rencontres et les échanges entre structures. On a l'école d'art, avec laquelle il y a un partenariat très étroit avec le musée.
Oui.
L'aboutissement du Cairn pourra peut-être aussi permettre un centre d'art visuel que la région et l'État, la DRAC, souhaiterait voir sur ce territoire. Le Cairn, par exemple, est un des 9 centres d'art labellisés par la région. Et il n'y en a qu'un dans les Alpes du Sud. Il n'y en a pas dans les Hautes-Alpes, il n'y en a pas d'autres dans le 04. On a une école, pareil, on a une école d'art
qui l'IDBL.
Est unique, IDBL. Ouais. Voilà. Donc, tout ça, quand même, a une cohérence. Le travail des artistes qui sont accueillis en résidence sur le territoire de la réserve, ça a été mis en place donc, en 2000, hein, donc il y a plus de 10 ans maintenant, et cohérent aussi avec ce qu'on souhaite construire sur ce territoire. On a un environnement exceptionnel, il faut apprendre à le regarder, il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'on construit pour demain, de quelle manière. Et les paysages, on a de la chance, on a des paysages extraordinaires qui inspirent des artistes du monde entier. Théodore Monod lui parlait du désert, il disait le désert est propre, ne ment pas. Et ces paysages ont la capacité d'interroger l'homme. Voilà. Mais je pense que nos paysages, c'est exactement pareil.
Oui, tout à fait. Et heureusement, ce n'est pas un désert humain.
Non, c'est pas un désert humain.
Non, parce qu'en fait, on parle de désert humain tout proche d'ici, hein, dans les Gorges du Verdon. Mmh. Le parc régional des Gorges du Verdon, c'est un des plus grands déserts humains de France. Hein. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait moins de population que dans certaines vallées du Sahel. Oui, donc on est dans ce repère aussi où la vie ici et la culture est conservée. Ça fait des millénaires qu'on est là. Hein. Donc il faut s'accrocher. Et toutes ces associations qui font vivre les monuments, hein, qui leur permettent d'être transmis, hein. Bien ça c'est remarquable aussi. Alors le patrimoine, c'est tout ça, et ça prend un temps fou, dites-moi.
Oui, Oui, voilà, tout prend du temps.
Ouais.
Je crois que voilà, si on fait les choses avec passion, ça prend du temps.
En fait, ça prend du temps, mais
c'est un
comme c'est
hein.
voilà, comme c'est de la passion, on le voit pas passer, c'est ça.
Oui, puis bon, c'est un engagement, je pense, voilà. Quand on démarre un mandat, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre, parce qu'on ne connaît pas forcément les délégations sur lesquelles on va travailler, ce que ça va impacter, représenter, les freins, les obstacles qu'il va falloir lever, la mobilisation qu'il va falloir aller chercher, les arguments pour convaincre aussi ses collègues que ce projet-là, il est vraiment intéressant pour la commune ou la communauté de communes. Voilà, donc tout prend du temps.
Donc il faut vendre son...
Oui, tout à fait.
Il faut vendre ses projets, quoi.
Ouais, il faut convaincre. Et ce qui est extraordinaire sur, je pense, tout ce qui tourne autour de l'art contemporain ou les refuges d'art, par exemple, c'est que la population locale n'est pas la première convaincue, mais en fait, l'Office de tourisme dit c'est la seule destination touristique, quoi, les refuges d'art, c'est le seul concept qu'on n'a pas besoin de vendre parce qu'il y a une notoriété nationale et internationale. Et les journalistes viennent d'eux-mêmes, du monde entier, quoi. On a eu même des articles en Chine, les Américains sont friands, l'Écosse, n'en parlons pas. Voilà, Andy Goldworthy, il a choisi ce territoire et il le dit très bien. Il est tombé amoureux de ce territoire, mais c'est une histoire de rencontre avec des personnes. Il a rencontré Nadine Gomez, la conservatrice, il a rencontré un accompagnateur de moyenne montagne, il a rencontré un architecte avec lequel il a pu travailler, être sur la même longueur d'onde. Et il dit, si ces personnes-là n'étaient pas là, je n'aurais pas fait ce que je fais. Construire ma plus grande œuvre, hein, dans l'espace et dans le temps, sur ce territoire-là. Voilà. Donc, pour moi, en fait, tout est toujours aussi histoire de rencontre. Je suis bien d'accord avec lui.
Oui, absolument. C'est justement l'humain qui va être à la source de tout ça. Cela dit, quand on a un territoire comme ça et que l'humain est au service de ce territoire, il y a une vraie rencontre entre le territoire et les humains aussi.
Oui.
On va reprendre un morceau musical et puis on revient. Et là, c'est Moriarty.
Down on a cusp of my cluster, it had less.
Voilà, vous écoutez Fréquence Mistral sur 99.3. Nous sommes dans le vent de l'art. Là, c'était justement Moriarty et son univers bien particulier. Nous sommes avec Cécile Rivière-Bonnefoy encore un bon moment. Et là, nous parlions de ses délégations, puisqu'elle est adjointe déléguée au patrimoine, au bâtiment et à l'artisanat d'art. Et on a parlé de ce patrimoine, on a évoqué différentes facettes, mais il y en a encore une très importante de facettes du patrimoine, parce qu'on ne peut que survoler hein, tout ça obligatoirement.
Oui, oui, oui. Donc elle est en fait présente à la ville par l'intermédiaire du service des archives communales. Et donc c'est tout ce qui est patrimoine en fait écrit. Mais qui peut être aussi du patrimoine oral, patrimoine écrit et visuel ou audiovisuel. Voilà. Et le service des archives communales a une mission première qui est la collecte, la conservation donc, hein, de fonds documentaires sur des supports divers et variés, principalement écrits. Le plus vieux document écrit qu'on a, c'est un document du XIIIe siècle qui est en fait un arbitrage entre les communautés juives et chrétiennes donc sur le territoire de la commune. C'est extrêmement délicat à conserver. Il est très peu sorti, ce patrimoine-là. Il est dans les réserves. Mais on a eu la volonté aussi d'avoir toute une action de médiation autour de ce patrimoine qui est menée donc, par Rémi Garcin, qui est archiviste avec l'équipe, et dans le cadre d'un partenariat avec les scolaires qui est très important. Donc, montrer à travers un parchemin quelle est l'histoire de la commune, d'une communauté, comment les gens vivaient à l'époque, voilà, avec des enseignants qui se sont bien mobilisés. Et maintenant, c'est une action qui roule. C'est aussi, je pense, ça fait partie des missions d'une commune. Et on a également donc un partenariat étroit avec le collège Maria Borelli, les classes patrimoine. Donc ça a été sous l'impulsion de l'enseignante Sylvie Poirier et puis bien renforcé aussi par l'arrivée de Joseph Puccini qui est le principal du collège. Donc on a là un trio de choc entre le collège Maria Borelli, donc Sylvie Poirier, Joseph Puccini, les archives départementales et la crypte. Et donc les classes patrimoine participent tout à fait à l'éducation patrimoniale de la jeunesse, en espérant que demain, ben voilà, ils iront aussi, eux, quand ils seront plus grands, et qu'ils emmèneront leurs enfants dans les archives, qui ne sont pas du tout poussiéreuses, mais passionnantes,
mais évidemment,
au musée, ou depuis plusieurs années, au musée à la crypte, dans le cadre des journées du patrimoine ou de la nuit des musées. On a des élèves qui sont des guides conférenciers, voilà, qui donc nous explique le travail de l'artiste sur une toile, ce qu'il a voulu représenter, ou par rapport à John von Kuberta, les sirènes, les fossiles sirènes qu'il a inventées et incrustées dans les roches, doivent juste nous interpeller et interpeller le visiteur, le touriste. Et c'est très, très amusant parce que ces enfants qui ont entre 10 et 12, 13 ans, ils ont parfois des réflexions stupéfiantes. Donc, il y en a un qui concluait son petit exposé sur l'œuvre de John von Kuberta en disant comme quoi, n'écoutez pas les médias, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Voilà.
C'est extraordinaire. Ouais. Alors, mais c'est classe patrimoine, parce que vous avez utilisé ce terme. Mmh. Ce terme, il faut quand même un peu dire ce que c'est, parce que ce n'est pas une classe patrimoine, ce n'est pas partie du cursus classique que l'on connaît dans les établissements.
Oui, tout à fait. Ça part vraiment de la volonté de l'enseignante, parce qu'en fait, comme vous le dites, ça s'appelle classe patrimoine, mais en fait, c'est même pas une option patrimoine. Ça veut dire que le collège n'a pas des heures en plus pour le patrimoine. C'est des enseignants qui ont la volonté, sur leur heure de cours, donc en l'occurrence littérature, de dire on va travailler sur le support patrimonial. Voilà, que ce soit des visites de ville, des documents écrits, l'analyse d'une peinture, voilà.
Tout en intégrant ça dans le programme classique académique.
Complètement.
Oui, voilà. Donc c'est une véritable gymnastique et adaptation grâce aux professeurs qui le veulent pour augmenter, je dirais, le fonds commun qui est le programme académique par une adaptation à ce qui se fait dans le... dans la ruralité ou dans la ville ou dans l'action des autres éléments du social, hein, les musées et ainsi de suite.
Ouais. C'est vraiment une volonté d'ouverture d'esprit pour ces jeunes parce qu'en fait, les musées, ils n'y vont pas forcément, parce que les parents n'y vont pas forcément. Hein, parce qu'ils n'osent pas y aller, ou voilà, ça n'en vient pas l'idée. Bon, et donc, on parlait tout à l'heure de l'importance de la culture dans les politiques des différents gouvernements, les politiques d'une municipalité, d'une collectivité. S'il n'y a pas le public non plus pour porter, les arguments, ils sont plus difficiles à mettre en avant. Donc, ça demande... Ça part d'une volonté, d'un désir, et ça demande aussi de la part de ces enseignants un travail supplémentaire pour sortir des sentiers battus de leur programme académique.
Ouais. Exactement.
Ouais.
Tout à fait. C'est tout à leur honneur. Alors, d'accord. On a vu ça et on a vu au combien c'était riche. On pourrait faire une émission complète rien que sur ces sujets-là. Maintenant... Il y a dans vos fonctions, dans vos délégations, comme on dit, pour utiliser le mot correct, les bâtiments, et on va survoler parce que c'est pas le sujet de l'émission, mais il y a quand même un paramètre incroyable, c'est la surface des bâtiments municipaux.
Oui, oui. En quelques mots, évidemment, on va pas s'étendre, mais la délégation bâtiment, c'était une découverte pour moi. Voilà. La gestion du patrimoine communal, c'est pas tout simple, c'est pas évident, c'est indispensable. Ça demande une véritable politique patrimoniale. Et 120 000 mètres carrés...
120 000 mètres carrés de bâtiments.
Comme vous le disiez, c'est considérable pour une ville de notre taille. Par exemple, on a 12 groupes scolaires, ce qui est énorme. On a des bâtiments de la gendarmerie des ciels. Voilà. On a 3 bâtiments, plus le bâtiment administratif, les hangars, qui appartiennent à la commune. Donc la commune doit entretenir. Voilà, il y a des logements, il y a. En plus, c'est un site militaire quand même, la gendarmerie. Voilà, donc il y a des conditions de sécurité, etc. Il y a tous les équipements sportifs, culturels, les bâtiments communaux, les services techniques, les bâtiments communaux, je pense, l'hôtel de ville, les services techniques, et tous les bâtiments mis à disposition des associations qui sont dans des bâtiments ici ou là, quoi. Voilà.
Une des difficultés, c'est que malgré cette superficie, il en manque toujours.
Oui. Voilà,
Les associations, principalement.
Voilà, ouais, c'est un peu le paradoxe. On en a beaucoup. Et puis, on a beaucoup d'associations. Donc, c'est une chance pour la ville. Il y a le Forum des associations chaque année qui connaît un grand succès. On a beaucoup d'associations. Et même si on n'a pas forcément les moyens de leur donner des subventions conséquentes par rapport à ce qu'ils seraient en droit d'attendre, on a... toujours maintenu quand même notre aide financière. Et en plus, on met des locaux à disposition. Donc, si on faisait un équivalent en loyer, en chauffage, en électricité, voilà, je pense que ça représente des sommes importantes. Avec la volonté aussi d'agir sur tout ce qui est énergie, maîtrise de l'énergie, isolation. Voilà. Bon, c'est des travaux considérables chaque année. Et pour finir là-dessus, je dirais simplement aussi que c'est un travail qui est nécessaire, indispensable. Il faut une gestion rigoureuse du patrimoine communal. Et en même temps, ça ne se voit pas tellement, finalement.
Oui.
Parce que, à part si demain, on construit une nouvelle salle de théâtre ou autre, mais sinon, c'est de l'entretien principalement et de le réaménagement. Et refaire une toiture, une couverture, c'est entre 70 et 160 000 euros, quoi. Voilà, tous les petits travaux d'entretien tous les jours que font les équipes, le service bâtiment... Ça se voit pas, et pourtant, il le faut.
Non seulement il le faut, c'est ingrat, mais c'est pas là-dessus qu'on est reconnu comme ayant des bons résultats, alors qu'il faut le faire tous les jours.
Ouais. Voilà.
Tout à fait. Alors, bon, une fois qu'on a évoqué ça et on en voit, l'importance, derrière, on va aller plutôt vers notre sujet qui est autour de l'art et cet artisanat d'art, parce que moi, j'ai invité ici... J'ai invité de nombreux artistes, mais aussi de nombreux artisans d'art. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Bernard Mélin parlera de son art, parce qu'au fond, on verra que c'est un art que de construire le son comme il doit être construit, ou de le restituer comme il doit être restitué. Alors, vous vous occupez aussi de l'artisanat d'art.
Alors, effectivement, c'était vraiment une volonté dans la campagne qu'on a menée en 2008. On a énormément de talents dans ce pays, des amateurs ou des professionnels dans tous les domaines, dans la céramique, dans la photographie, dans la peinture, dans la gravure, dans la sculpture, voilà. Et beaucoup n'ont pas finalement de vitrine, d'espace pour exposer, faire découvrir, se faire connaître. D'autre part, on a un centre ancien qui est quand même, qui s'est quand même désertifié depuis une quinzaine d'années. Hein. C'est pas une exception de la ville de Digne. Hein. Beaucoup de centres anciens ont du mal à voir maintenir ou émerger une activité, quelle qu'elle soit, à côté de logements. Et donc, l'idée, c'était de dire, on a un local dans l'arrêt du Bac qui est disponible. Eh bien, mobilisons-le, mettons-le à disposition gratuitement pour ces artistes. Et puis, ça va permettre également... De donner une petite dynamique à côté des commerçants qui eux aussi agissent pour que la rue du Bac et le centre ancien gardent une attractivité en fait, pour que tout ça converge. Donc je crois que au bout de 5 ans, je pense qu'on peut dire que c'était une bonne idée, que c'est une réussite. La mise à disposition elle est gratuite par période de 15 jours. La première année, on a ouvert 4-5 mois, donc il y avait 7 artistes sur des périodes un peu plus longues et puis qui s'étaient un peu regroupés. En fait, c'était vraiment le lancement.
Les balbutiements.
Oui, voilà. C'était avec des artistes que je connaissais qui ont bien voulu dire on y va, on part dans l'aventure, on essaye. Voilà. Et puis, la deuxième année, il y a une quinzaine d'artistes. Et puis aujourd'hui, on ouvre 8 mois par an et il y en a entre 18 et 20. Certains invitent aussi, font des expositions à plusieurs. Certains viennent depuis le début, d'autres non, n'en fait qu'un passage. Peu importe. Ça crée, je pense, ça crée aussi une identité artistique sur la ville. C'est devenu un lieu de rendez-vous. Il y a des gens qui, tous les 15 jours, ils savent qu'il y a quelque chose de nouveau à voir et qui viennent. Voilà, il y a des artistes qui se sont découverts les uns les autres, qui font des choses ensemble à côté. Par ailleurs, c'est vraiment satisfaisant. Je pense qu'on pourrait le développer.
Ouais. Et quand je passe pour chaque artiste et que à certains moments j'invite ces artistes à la radio pour l'émission, certains me disent oh oui volontiers et d'autres me disent ah non, faire une émission de radio je peux pas, c'est trop difficile pour moi. Ouais. Et donc on a aussi nous, Fréquence Mistral, aussi un engouement et une réponse et un relais très important par rapport à ces artistes. Oui, je trouve ça très intéressant. Alors, ça va continuer, cette galerie. Elle va continuer et elle va avoir de plus en plus d'actions ou pas. Il faut élargir.
Oui, alors, déjà, sur la commune, il y a plusieurs lieux d'exposition. Oui. Qui existent et qui sont remarquables au niveau des démarches qui ont été impulsées. Par exemple, je pense au MIAM, dans les locaux de l'IUFM. Je pense à la médiathèque qui reçoit aussi des artistes, des artisans d'art. Il y a le CERN, il y a l'école IDBL, l'école d'art.
Monsieur Charbonnier qu'on a accueilli ici, oui, tout à fait.
Oui, on est sur des créneaux un peu différents, mais tout ça se complète, en fait. Je pense qu'on commence à avoir une offre qui peut être bien structurée. Donc, l'idée, effectivement, ce serait de mobiliser d'autres locaux vacants. Et je pense qu'avec, dans le cadre de l'étude préalable du FISAC qui est menée par la communauté de communes, on est en train de réfléchir, effectivement, à mobiliser les locaux ou les vitrines vacants en centre ancien. Donc, il faudra évidemment l'accord des propriétaires. Donc, ça peut être qu'une vitrine, même déjà, mais au moins, ça participe aussi à l'image du centre ancien. Et puis, ça peut être aussi un relais pour inciter les personnes à aller voir les ateliers des artistes qui... voilà, qui
faire le tour de la ville, de la vieille ville, pour regarder, oui. pour être oui. là. Ça embellit aussi, ça donne un attrait différent à la chose.
Oui, oui, oui. Et je pense que ça permet aussi de faire découvrir certains métiers, quoi. Bon, le travail... Le travail de la céramique, du raku, enfin, il y a des techniques très particulières, de la gravure, le travail du verre aussi. Là, on a eu l'atelier du verre avec ses élèves qui est venu exposer, atelier à vitraux et miroirs. Le travail du verre, c'est magique. Voilà. Donc, on n'en est pas à faire des démonstrations, mais... Pourquoi pas? Quelques sculpteurs avaient fait des démonstrations aussi dans la rue en été devant le local. Voilà. Donc je pense que on pourrait développer quelque chose vraiment d'intéressant sur ce centre ancien. Et puis donc montrer que un artiste c'est pas simplement c'est pas facile de peindre de sculpter, le travail de la photographie est extraordinaire. Mais bon, alors moi, je me régale, c'est un peu égoïste, mais j'ai découvert des gens extraordinaires. Enfin, le travail de la photographie noir et blanc, moi, ça me passionne. je me rappelle quand j'avais le temps, j'allais à l'école des beaux-arts faire des tirages en noir et blanc, travailler... toutes les techniques, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Avec encore le révélateur et le tout ça, la lampe rouge et les films en négatif, en argentique.
Oui. Voilà, donc on a une école des beaux-arts qui est une tradition sur la ville, qui permet tout ça. On a ces artistes comme Bernard Plossu qui a exposé dans le cadre du CERN, qui fait des photos en noir et blanc, qui a fait des photos sur le département et la ville, qui sont d'une subtilité. Moi, je trouve que le noir et blanc, il y a... C'est plein de couleurs, c'est plein de nuances, quoi, voilà. Et bon, j'en parle parce qu'il y a plusieurs photographes qui ont exposé à la galerie. Et puis, bon, vous êtes vous-même photographe. Et je pense que ça crée aussi des émulations. Chez le public, on a des familles qui viennent, on a des parents qui amènent leurs enfants, on a des enfants qui, finalement, ont envie, après, d'aller à l'école des beaux-arts. Et voilà, c'est extraordinaire. On a des personnes plus âgées, qui ont 50, 60, 70 ans. Qui exposent, qui font venir leurs amis, ou qui vont inciter des personnes à pratiquer aussi.
Et puis exposer,
tout le monde
c'est
est capable de. Voilà, il faut pas se mettre des barrières. C'est très très personnel la pratique artistique. Donc effectivement, et puis je pense qu'il faut donner un coup de pouce à la création artistique. Voilà, de manière générale.
Il faut être présent pour elle, oui, absolument. Ouais, ouais. Alors, on pourrait vous écouter des heures, c'est extraordinaire, parce que votre passion vous amène non seulement à parler très bien de vos sujets, mais en plus à donner envie d'en savoir encore plus et encore plus et encore plus. L'émission ne se termine pas. On vous réentendra à la fin de l'émission pour un peu donner les sites importants et puis les activités ou je dirais ce qui est à venir en quelques minutes. Mais maintenant, on écoute un morceau de musique.
We'll be right back. different people inside, and some of them are never satisfied. They got all these lines they can say, so many parts they will have to play. Some of us are happy, some of us are sad, some of us are geniuses, some of us are mad, some of us are righteous, some of us in sin, some are what you think they are, some are just pretending. Myself and I, and some of us, I can't identify. They got all these roads to take, so many parts they will have to play. Some of us are happy, some of us are sad, some of us are geniuses, some of us are mad, some of us are righteous, and some of us in sin, some are what you think they are, some are just pretending. Some of us are happy, some of us are sad, some of us are geniuses, some of us are mad, some of us are righteous, some of us in sin, some are what you think they are, some are just pretending.
Fréquence Mistral, Digne-les-Bains, 99.3. Nous avons écouté et échangé avec Cécile Rivière-Bonnefoy un ensemble d'éléments. Et Cécile Rivière-Bonnefoy, vous avez un site aussi internet, une actualité?
On peut trouver sur le site de la ville de Digne toutes les informations sur les manifestations qui ont lieu. La prochaine va se dérouler dans les deux week-ends qui arrivent. Ce sont les journées du patrimoine de pays. Voilà.
Donc très importante. Et ce site de Digne, c'est...
Bon, vous tapez Digne-les-Bains, vous allez tomber
directement sur le site de la mairie. C'est le site général de la mairie dans lequel il y a toutes les activités et dont ces dernières qui arrivent, qui sont sur le patrimoine.
Oui. Et merci beaucoup pour l'invitation.
Merci d'être présent et de faire ce que vous faites tout au long de l'année, d'ailleurs. Une bonne soirée à tout le monde et à bientôt.